Alors, la question qui se pose, c'est de se dire, mais comment? Alors, vous connaissez les mécanismes de la crise. Vous savez comment elle a surgi, cette crise. Tout le monde vous a dit que c'est parce qu'on avait accordé aux ménages américains qui n'avaient pas les moyens, qui avaient des revenus modestes, des prêts hypothécaires pour qu'ils puissent accéder au logement, à la propriété. Et puis, est venu un moment où ces ménages-là n'arrivaient pas à rembourser, surtout avec d'une part la hausse, la montée des taux d'intérêt, et puis en même temps la baisse du prix de l'immobilier. Ils ont été pris en ciseaux et n'étaient pas capables de rembourser. Donc la question, c'est pas de revenir sur comment cette crise a démarré, parce que vous le savez. La question, elle est beaucoup plus de se demander, de se poser la question, de réfléchir. Comment une crise qui est née sur un segment particulier, l'hypothécaire, l'immobilier, aux États-Unis, comment cette crise, elle est devenue aussi importante? Comment elle a réussi à passer, elle est passée aux matières premières, elle est devenue mondiale et a mis l'ensemble du système sur le point de s'effondrer au bord du gouffre. Comment cette crise, parce que ce segment n'est pas si important que ça. Je dis ça pourquoi? Parce que, bon, on comprend très bien que ça, c'était l'étincelle. Ça, le segment de l'hypothécaire, de l'immobilier aux États-Unis, c'était l'étincelle. Mais pour que ça donne une explosion, il faut bien qu'il y ait eu un baril de poudre à côté. L'étincelle toute seule ne suffit pas. Et ce baril de poudre, eh bien, il était en place depuis de nombreuses années, et pour ça, il faut revenir à la fin des années 70 et au début des années 80, quand la mondialisation a commencé, la mondialisation néolibérale s'est mise en place. Qu'est-ce qui s'est mis en place? C'est qu'on a vu à ce moment-là, et d'ailleurs, ces années 79, c'est l'année 79, ce que certains appellent le coup de 79, le tournant de 79, coïncide avec l'arrivée de Paul Volcker à la direction de la Fed et ensuite l'élection de Reagan et de Thatcher. Paul Volcker, c'est le même personnage que Obama a choisi hier pour présider le Conseil des économistes. C'est pour vous dire que le monde n'est pas très grand et que finalement, on retrouve c'est ce même Paul Volcker qui a été rechoisi. Qu'est-ce qui se passe donc dans les années 79-80 ? Avec la montée, donc un resserrement du crédit, la montée des taux d'intérêt et surtout une dérégulation qui se met en place et un décloisonnement, c'est-à-dire qu'on peut, dans tous les compartiments, les capitaux peuvent circuler, les acteurs financiers peuvent intervenir dans tous les compartiments, il y a une dérégulation, toutes les règles sautent et on voit une libéralisation, pas de contrôle des mouvements des capitaux qui se met en place. Et ça, ça va être extrêmement important, ça va prendre place, ça va avoir lieu au départ aux États-Unis, ensuite au Royaume-Uni et en Europe continentale où on a libre circulation des capitaux à 24 heures sur 24 dans tous les compartiments, du plus court au plus long, libre circulation totale et on fait sauter toutes les règles, toutes les entraves qui peuvent gêner donc cette libre circulation. À ce moment-là, on voit aussi que ces capitaux vont se mettre à la recherche de rentabilité de plus en plus importante. Et donc c'est ça qui va réguler plus ou moins ce capitalisme qui se met en place, c'est la recherche, la règle ça va être la recherche de rentabilité, en même temps qu'on voit surgir des acteurs qui ne sont pas les banques telles qu'on les connaît, les intermédiaires financiers traditionnels, mais on va voir surgir des investisseurs institutionnels, des fonds qui sont à la tête d'énormes sommes, d'énormes capitaux qui circulent et qui sont à la recherche de rentabilité de plus en plus accrue. Et les banques, à un moment donné, on s'est posé la question, mais que vont devenir les banques par rapport à ces marchés financiers qui se développent et qui deviennent extrêmement importants? Et loin de disparaître, comme on aurait pu le penser par rapport aux banques, loin de jouer un rôle moins important, au contraire, les banques se sont très bien adaptées à ce nouvel environnement. C'est-à-dire que les banques vont rajouter à leur métier traditionnel de collecte des dépôts et d'accorder les crédits, elles vont rajouter d'autres métiers à leur métier et elles vont intervenir sur les marchés, elles vont être des acteurs extrêmement importants sur ces marchés financiers. Les banques vont être les plus importants sur les marchés financiers à côté des autres investisseurs institutionnels. Et cette recherche de rentabilité va pousser à des prises de risque beaucoup plus importantes que par le passé. Si bien qu'on va voir se développer, par exemple, par rapport aux banques, alors qu'il y a des règles traditionnelles de solvabilité, des règles prudentielles qui veulent qu'une banque peut prêter autant par rapport à ce qu'elle a, ainsi de suite, on va souvent développer une technique qui s'appelle la titrisation. Alors, qu'est-ce qu'on cache derrière ce vocabulaire un peu barbare? C'est tout simplement le fait que quand les banques vont accorder des crédits, au lieu de garder ces créances dans leur bilan, elles vont se mettre à vendre ces créances-là pour sortir de leur bilan ces créances, d'une part, elles vont les vendre sous forme de titres, donc ils vont découper ces créances et les vendre sous forme de titres, c'est ce qu'on a appelé la titrisation, donc contre capitaux, donc elles vont récupérer les capitaux, et ces titres vont se retrouver dans les mains d'autres investisseurs ou d'autres banques, mais qui n'ont pas exactement les mêmes capacités, ou en tout cas les mêmes règles, qui ne subissent pas la même supervision que les banques. Si bien que les banques, quand elles vont titriser, d'une part, elles vont prendre des risques, par exemple accorder des prêts à des ménages qui ne sont pas forcément solvables, ou d'autres risques. Pourquoi? Parce qu'en prenant ces risques-là, c'est plus rentable, mais en même temps, les banques ne vont pas garder ces risques dans leur bilan. Elles vont transférer ces risques en sortant les titres, en sortant les créances, elles vont transférer les risques vers d'autres acteurs. Donc, quand la banque transfère le risque en dehors ou la créance en dehors, elle remet son compteur à zéro, donc elle peut à nouveau accorder d'autres prêts. Donc, il y a un contournement là de la réglementation prudentielle, puisqu'elle peut remettre son compteur à zéro. Et en même temps, donc, il y a transfert du risque, mais vers d'autres acteurs. Et ces acteurs-là, ils ne sont pas du tout, ni par leur métier, ni par leur profession, ni par les règles, ni par la supervision, préparés à prendre ces risques-là. Mais en disséminant ces risques n'ont pas disparu. Loin de là, ces risques vont être un peu partout, mais sans qu'on sache exactement où ils sont, ces risques-là. Pourquoi? Parce que quand on les a titrisés, alors je ne vais pas vous donner les noms, peut-être, ça s'appelle des ABS, des CDO. En gros, ils vont être mélangés, ces titres risqués, donc, parce que la rentabilité, elle rémunère le risque. Plus c'est risqué, plus on exige une rentabilité supérieure. Donc, ces risques, ces titres vont être mélangés avec d'autres titres, que ce soit des États-Unis ou d'Espagne ou du Royaume-Uni ou d'ailleurs, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'automobile ou dans les crédits ou les prêts à des étudiants ou n'importe quel autre risque, ils vont être mélangés, ces titres, ils vont être découpés en tranches et ensuite on va mettre dans des paquets, des CDO, on dit, comme des obligations, et puis on va les vendre. Alors, qui va les noter, ces titres, puisque je disais tout à l'heure que la rémunération, c'est en fonction du risque. Qui va noter? Donc, on regarde la note, et plus la note est bonne, moins les intérêts qui sont payés par rapport à ces obligations-là, par rapport à ces titres structurés, synthétiques. Donc, si la note est très bonne, évidemment, les intérêts qu'on va payer vont être moindres, et inversement, si le risque est très important, ben, les intérêts qui vont être payés vont être supérieurs. Qui va noter ces titres-là? Ben, les agences de notation. Il y en a trois, les plus connues, et ces agences de notation, il faut savoir, elles sont payées par l'institution qui leur demande de noter ces titres. Donc, vous voyez le conflit d'intérêts qui existe là. On demande à l'agence de notation de noter. Si l'agence de notation Je ne dis pas qu'elle a fait tout ça, mais elle, c'est une incitation à mettre plutôt une bonne note, parce que si la note n'est pas bonne, le titre n'est pas commercialisé et l'agence de notation n'est tout simplement pas payée. Donc, il y avait une très forte incitation à mettre plutôt des bonnes notes. À partir du moment où un titre comportait un aspect, alors c'est comme un millefeuille ces titres-là, hein, on met plusieurs couches de titres de créances différents. À partir du moment où il y avait un titre qui était plutôt bon, moins risqué, et bien c'est l'ensemble. Alors ensuite, on découpait le millefeuille en petites tranches et chaque tranche donc portait des notes. Et à partir du moment où il y avait une note qui était un produit qui était bon, ben c'était l'ensemble qui était doté 3A par exemple pour être une bonne note. Si bien qu'on ne sait pas dans les produits qui circulent, dans les produits qu'on appelle toxiques aujourd'hui, dans les produits qui sont dans les fonds d'investissement et dans les banques, eh ben on ne sait pas où se retrouvent les produits toxiques qui sont mélangés à d'autres et même les détenteurs de ces produits-là ne le savent pas. Et ça, ça explique pourquoi les banques, normalement, qui se prêtent entre elles, refusent aujourd'hui de prêter l'une à l'autre, parce qu'on ne sait pas où sont prêts ces produits-là et que personne ne veut se retrouver avec la patate chaude. C'est un marché qui va être totalement gelé. Donc, je disais tout à l'heure, il y avait l'étincelle et puis il y avait le baril de poudre pour qu'il y ait cette explosion. Et le baril de poudre, le plus grave pour moi, ça a été la titrisation comme technique qui a disséminé le risque en dehors des banques et auprès d'institutions et de fonds qui sont dans l'incapacité totale d'assumer ces risques-là. Parce que les banques, elles ont ce qu'on appelle en jargon économique un prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire que la banque centrale, si elle voit que le risque est trop important et que vraiment c'est très grave et que si telle banque elle fait faillite, elle va entraîner l'ensemble du système à sa suite, l'effet domino là, la banque centrale normalement elle intervient pour essayer de sauver la banque. Mais les autres intervenants, tout ce qu'on a appelé le shadow banking, c'est-à-dire un système de banques parallèles, d'institutions qui n'étaient pas des banques, mais qui étaient tout autour des banques et qui faisaient quasiment un métier de banque, mais sans avoir la supervision, sans avoir à répondre aux règles que subissent les banques, la réglementation prudentielle, et bien l'ensemble de ces institutions-là tout autour vont se retrouver empêtrées dans ces produits-là avec une absence de capacité à les assumer. Voilà un tout petit peu pour le décor.